en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Mesdames, Messieurs de l'Académie, c'est un grand privilège d'être élu à l'Académie française. Un grand privilège auquel s'ajoute le bonheur d'avoir à prononcer l'éloge d'un écrivain que l'on aime et que l'on admire. Beaucoup d'académiciens, parmi les plus illustres, n'ont pas eu cette chance. Victor Hugo dut s'efforcer de trouver des qualités à Nepomucène Lemercier, son ennemi irréductible, qui avait torpillé ses précédentes candidatures. François Mauriac confessait qu'Eugène Brieux lui inspirait surtout un ennui mortel. Il avait éreinté Brieux dans un article de jeunesse. Quant à Paul Valéry, qui vouait une rancune tenace à son prédécesseur, parce que celui-ci, 50 ans auparavant, avait exclu Mallarmé du Parnasse contemporain, il eut recours à un tour de force pour ne pas prononcer une seule fois le nom d'Anatole France. Ces grands écrivains m'invitent à la modestie, mais aussi à savourer cette insigne faveur, loin d'être aujourd'hui devant un sujet imposé, je vais pouvoir laisser parler mes sentiments. Michel Mohr a toujours vécu et écrit le cœur debout, avec une franchise hardie jusqu'au panache. Il n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense, et ce qu'il pense est volontiers provocateur. Cela le rend imprévisible et ajoute à son charme, il n'est jamais là où on l'attend. Atypique, souvent paradoxal, ce qu'il a à dire, il le dit, les yeux dans les yeux. J'en donnerai un exemple. Quand il fut élu à l'Académie française en 1985, Maurice Druon, alors secrétaire perpétuel, lui demanda, comme il est d'usage, s'il souhaitait faire partie de la commission du dictionnaire. « Ah non, dit-il d'un ton furieux, j'ai horreur des dictionnaires. » Cette réponse abrupte est presque sacrilège à l'Académie, où le dictionnaire est l'objet de tant de soins, provoqua la stupéfaction parmi ses nouveaux confrères et risquait de lui attirer les foudres du secrétaire perpétuel. Maurice Druon, magnanime, évoqua son oncle Joseph Kessel, qui lui non plus n'avait pas un goût immodéré pour les dictionnaires. Il ajouta que c'est souvent le cas des romanciers, plus attachés au rythme et à la musique des phrases qu'à la stricte définition des mots. Michel Mohr, même à l'Académie, fut un fier caractère. C'est la Bretagne faite homme, a-t-on pu dire d'un de ses plus prestigieux prédécesseurs. L'expression lui convient si bien, on serait tenté d'en faire un morceau de Bretagne. Michel Mohr le revendique, « Je suis consubstantiellement breton ». On retrouve chez lui, de façon presque caricaturale, les qualités, les particularités de sa terre natale. Je ne dirai pas que cet homme est de granit, pour éviter un cliché, mais il y a chez lui une rugosité, une rudesse, une solidité qui justifie la comparaison. Des yeux bleus, couleur d'océan, des cheveux qui ondulent comme des vagues, une moustache de loup de mer, il est breton jusque dans le portrait physique, breton d'Armor, d'une Bretagne tout entière tournée vers la mer. L'un de ces cimériens bons et vertueux dont parle Ernest Renan, Michel Mohr, appartient à un peuple indomptable venu d'on ne sait quel lointain. peut-être d'une île enchantée. Un peuple nourri de chimères, très attaché à son mythe fondateur, le royaume du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Le merveilleux breton, qui fut le creuset des premiers romanciers français, Michel Mort en est l'héritier. Son nom lui-même n'est pas sans évoquer la légende de Tristan qui eut à vaincre le Morholt. Tout ce qu'il aime et le fait rêver. La source même de ses livres reste liée pour lui au bruit des vagues, au cri des goélands, aux formes instables des nuages et à la douceur des printemps. La Bretagne magique, celtique, se confond et s'unit chez lui à une Bretagne de la tradition, celle d'Anatole Le Braz et de Pierre-Jacques Elias, respectueuse de rites et de coutumes, avec ses récits de paysans et de marins qu'on raconte le soir au coin du feu, héros humbles et valeureux qui enflamment l'imagination. Une Bretagne catholique qui vit au son des cloches des églises, au rythme des processions qui traversent les villages, des Angélus et des Ave Maria. C'est une terre fervente qui va modeler la personnalité de Michel Mort et marquer à jamais son monde intérieur. Bretagne, des contes du soleil et de la lune, de l'herbe d'or, autant que de la quête du Graal, elle est la maison du Père, la première fidélité. Michel Mort, né à Morlaix dans le Finistère, là où finit la terre, a passé en Bretagne, sans en sortir, les 20 premières années de sa vie. Et il n'a jamais vraiment quitté cette première patrie, y revenant toujours des antipodes pour y retrouver les souvenirs d'une enfance heureuse et les vérités simples de la vie. Ses livres ont ce même ancrage. Qu'ils se déroulent à Paris, à Londres, à New York, à Venise ou dans les Adirondacks, ils ont tous quelque chose de breton en eux. Comme un parfum indéfinissable mais très présent. Cela tient à une atmosphère et à des traits de caractère, à un fond de sauvagerie qui résiste et se prolonge, quels que soient les climats et les pays qu'il évoque. Ce parfum puissant, d'iode et d'embrun, on peut le reconnaître dans tous les romans de Michel Mort. On y respire l'air du large. Plus que Morlaix, où il a vu le jour, le 28 avril 1914, dans une famille établie dans le négoce. Plus que Brest, où il fut pensionnaire chez les pères dès l'âge de 12 ans. Brest, où il servit la messe dans la chapelle de la prison maritime. Et bien plus que Rennes, où il fut étudiant en droit à l'université. C'est Lokirec, son port d'attache. Un village de pêcheurs des Côtes d'Armor. Il y a appris à marcher sur la plage, à nager puis naviguer par tous les temps, et c'est d'une maison bâtie au sommet d'un promontoire que ses rêves se sont envolés. Ker Vélin, la maison du moulin, ainsi nommée parce qu'elle occupe l'emplacement d'un ancien moulin à vent. Un site exceptionnel, doté d'une vue à 180 degrés sur la baie. C'est là, depuis un oratoire, construit au centre d'un jardin rocailleux, que Michel Mort a écrit la plupart de ses livres, sous les rafales du vent d'ouest et tourné vers l'océan. Il y a, dans les romans de Michel Mort, des marins et des navigateurs qui se nomment Olivier, Tugdual, Erwan, Ronan, des prêtres nationalistes qui savent être d'excellents capitaines, l'abbé Floïc des moyens du bord, l'abbé Guerne de la prison maritime. Il y a des enfants rêveurs et des femmes aux yeux verts, impatientes de quitter le port. Tous les livres expriment un désir d'ailleurs. Homme de tradition, pétri dans sa terre ancestrale, non pas cependant traditionnaliste ni conservateur. Michel Mort est lui-même un nomade, épris de voyage et de dépaysement. Un de ces exilés de l'intérieur que Félicien Marceau a si bien décrit dans Capri, petite île, Il échappe à la petite île. Il s'affranchit de ses frontières. La Bretagne ne l'enferme pas. Elle coule dans l'œuvre. Elle l'irrigue, lui ayant inoculé les caractères fondamentaux de sa personnalité, l'esprit d'indépendance, le goût de la rébellion, la magie sensuelle des songes, mais aussi, par sa position géographique extrême, la fascination des mondes ouverts. Si enraciné soit-il au sens barésien, Michel Mohr est un homme qui a surtout habité ses rêves. Vie et roman sont chez lui indissociablement liés. Il a rêvé sa vie et tenté de vivre ses rêves. Comme écrivain, il est moins un conteur, un inventeur de fables, qu'un homme qui transmue en romanesque sa propre histoire. Il porte le roman en lui. Chacune des étapes de sa vie, qui fut diverse et parfois houleuse, correspond à un livre, souvent même à plusieurs livres, qui courent sur des décennies jusqu'à ce qu'il en épuise la matière et trouve le sens de l'aventure. Rarement à la première personne, plus souvent sous les noms d'emprunts de personnages qui sont à la fois lui et un autre, Pierre Talbot, Alain Monnier, ses sosies dans l'œuvre, il parvient à créer un univers romanesque qui lui est propre. Entre fiction et réalité inextricable, la peinture sans concession d'une époque, d'un pays, d'un monde qui furent les siens. Jeune sous-lieutenant, sorti de l'école militaire de Saint-Mexant, il passe sous les drapeaux 4 ans de sa vie. 4 ans qui vont être déterminants dans sa vocation comme dans sa personnalité d'écrivain. L'expérience le marque d'un sceau indélébile. « J'ai aimé l'armée, écrit-il, parce que j'y ai trouvé l'ordre. Mais je logeais dans l'ordre mon désordre particulier. » L'armée lui donne le cadre dont il a besoin. Une discipline, une structure qui, paradoxalement, favorise chez lui la liberté et, c'est encore plus surprenant, la songerie. Mobilisé ailleurs en 1939, il a 25 ans, il prend le commandement d'un bataillon de chasseurs alpins chargé de défendre les positions françaises à la frontière italienne au col des Colmianes. Ce sera son désert des Tartares. Élevé dans le culte des soldats de la Marne et de Verdun, lui qui est né en 14, l'année même de la Grande Guerre, il a rêvé d'une guerre héroïque. Mais la frontière est désespérément calme. Il passe beaucoup de temps à Menton et à Nice, où les filles sont belles. Et quand il chausse ses skis avec ses camarades, c'est pour le plaisir de dévaler les pentes sous le soleil du midi. L'inaction le ronge. Il guette en vain les Italiens, qu'on appelle les babi, les grenouilles, dans le comté de Nice, à cause de la couleur verte de leurs uniformes, et il broie du noir. Une bataille enfin, au fusil mitrailleur et à la grenade, les armes dérisoires dont on les a pourvues, lui permet de prouver son courage. Elle lui vaut une citation avec la croix de guerre, mais le laisse dépité, malheureux, en proie au sentiment d'avoir remporté une victoire illusoire, alors que la France est impitoyablement vaincue. Sa première tentative littéraire, au lendemain de sa démobilisation, est un essai, Les intellectuels devant la défaite de 1870. Cherchant un remède à son accablement, il retrouve dans Sedan et la chute du Second Empire les symptômes du malaise qui a saisi sa génération. Une sorte de lien tragique s'établit, écrit-il, par-dessus la victoire de 1918, entre 1870 et 1940. Ces deux dates néfastes s'éclairent l'une l'autre, elles se répondent, elles prennent l'une près de l'autre une signification cruelle. La débâcle de juin 1940 semble une réplique de la débâcle d'août 1870. Ce premier livre de Michel Mort jette une lumière crépusculaire sur tout ce qu'il écrira. La campagne d'Italie est le récit le plus accompli de son malaise dans le climat délétère de 39-40. Le personnage principal, Pierre Talbot, autrement dit Michel Mort, et un de ses amis officiers font quelques pas en silence après l'annonce de l'armistice. C'est la toute fin du roman. Talbot dit « On reste sonné, tu ne trouves pas ?»« Oui, dit l'autre, on n'est pas prêt de s'en remettre. »« On ne s'en remettra jamais, dit Talbot. » Michel Mort, lui non plus, ne s'en remettra jamais. Toute sa vie, il aura mal à la France. Il restera un écrivain assombri par la défaite. La blessure morale reçue à l'aube de sa vie ne se refermera pas. Du répit, son premier roman, publié à Marseille par Robert Laffont en 1945, jusqu'à Tombeau de la Rouerie, l'un de ses derniers livres, publié l'an 2000, l'œuvre est marquée par ce traumatisme. 55 ans d'écriture n'y changeront rien. Il manquera toujours quelque chose à la vie, endeuillée en 1940. Comme chez Drieux-La Rochelle, les personnages de Michel Mort sont des héros vaincus, des blessés de la vie, de grands invalides de l'histoire. Mais à la différence de ceux de Drieux, et c'est une grande différence, ils ne connaissent ni les vertiges de l'autodestruction, ni la tentation du suicide. En littérature, le véritable modèle reste Monterland. Perfection de style impérial, de sens aristocratique de la vie, de sacerdoce littéraire, il lui consacre un ouvrage dès 1943, admirant ces magnifiques phrases dont le rythme ample lui rappelle les mouvements de l'océan. Il le rencontre à plusieurs reprises, à Nice, puis à Paris, où ils dînent au Voltaire, et vont ensemble au théâtre. Il ébauche avec lui une relation de disciple à maître. Pour Michel Mort, Monterland est le symbole de l'homme libre, titre de son essai. Le symbole du courage, de la vertu guerrière, de la fraternité des combats, en même temps qu'un don Juan ayant toutes les femmes à ses pieds. Il devait un jour tomber de haut, de très haut, en apprenant que Monterland avait maquillé son personnage et n'était ni le héros de la Grande Guerre, ni le séducteur de femmes qu'il prétendait être. Cette révélation tardive le laissa pantois. Pour Michel Mort, la littérature ne pouvait pas prendre de liberté avec la vérité. La vérité, il ne l'a pas esquivée dans la période la plus douloureuse de sa vie, l'occupation. La France, humiliée et déchirée, devait lui inspirer la vision de la guerre civile qui est le grand sujet de son œuvre. Il y a chez lui un scrupule de vérité qui l'empêchera d'enjoliver l'histoire et de se donner le beau rôle. Il ne dissimulera rien et il ne reniera rien de son parcours ni de ses amitiés. Il retrouvera un jour, dans la figure de François Mitterrand, une étrange communauté de points de vue, non pas politique, mais si personnelle qu'on est tenté d'y voir une esquisse de fraternité. Ayant éprouvé l'un et l'autre la même difficulté à traverser une époque devenue opaque à ceux qui ne l'ont pas vécue, à cause d'interprétations décalées dans le temps et qui ne tiennent plus compte des circonstances et de la masse de commentaires souvent faussés par l'idéologie, les repères se sont brouillés. Chacun, selon Michel Mort, y cherchait sa voie comme il pouvait. Il s'en expliquera à la mort du président de la République dans un article du Figaro. Pour lui-même, comme pour François Mitterrand, la séparation ne se faisait pas entre pétainistes et gaullistes, mais, je le cite, entre ceux qui avaient vécu cette période et ceux qui ne l'avaient pas vécu. Mon royaume pour un cheval, en 1946, et la guerre civile, 40 ans plus tard, en 1986, livre phare, rendent compte l'un et l'autre, de manière romanesque, de ce désarroi et même de ce désespoir partagé par leur génération. La vérité qui s'en dégage ne peut être qu'ambiguë, écrira-t-il dans la préface à la troisième édition de Mon royaume pour un cheval. Récusant toute approche manichéenne de l'histoire, les personnages de Michel Meurt, les plus proches de lui, sont des anti-héros. Ils ne s'engagent pas, ils ne se laissent entraîner ni dans un camp ni dans un autre, ils répugnent aux embrigadements. Ni fascistes, ni communistes, ni résistants, ni collabos, et pas plus gaullistes que pétainistes, ni Drieux, ni Malraux en somme, ils restent spectateurs. Ils subissent l'occupation. Ils envient ceux qui ont assez de foi pour aller au bout de leurs idées et pour certains, au bout de la nuit. Mais ils ne se décident pas à leur emboîter le pas. C'est ainsi que Michel Meurt aura essayé en vain de convaincre son camarade Jean Bassompierre de ne pas s'engager dans la LVF du côté des Allemands sur le front russe. Mais il ne suivra pas pour autant le chemin des résistants. Basson, ainsi qu'il nomme Bassompierre, est la plus haute figure de ces soldats perdus qui hanteront jusqu'à la fin les livres de Michel Meurt. Tombeau de la Rouerie, l'un des derniers, revient encore sur la tragédie des destins égarés, cette fois dans le miroir des années de la Révolution, théâtre, selon lui, d'une précédente guerre civile. Le marquis de la Rouerie, qui combattit en Amérique avant Lafayette, devait rester fidèle au roi jusqu'à son dernier souffle. Il avait créé une armée clandestine en Bretagne et pris le maquis pour résister aux forces révolutionnaires. Pour cet anti-jacobin que seule la mort du roi a pu désespérer, Michel Meurt éprouve la plus vive sympathie. Sa ressemblance avec Bassompierre, qu'il souligne à maintes reprises, tient moins à son côté tête brûlée qu'à la violence de son engagement, à une fidélité à la vie, à la mort, à la passion du sacrifice qui à la fois les élève et fait d'eux des réprouvés. C'est Basson qui avait appris à Michel Meurt la complainte de Mandrin qu'il chantait de façon étrangement prémonitoire tandis qu'ils regagnaient leurs postes respectifs en 1939 au-dessus de Saint-Martin-Vésubie. Monté sur la potence, je regardais la France. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnons de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me verra plus. Je suis un enfant, vous m'entendez? Qu'elle ne me verra plus, je suis un enfant perdu. Il pouvait admirer d'autres courages. C'est ainsi qu'il fut lié à un résistant gaulliste, décoré lui aussi de la croix de guerre, qui devait devenir un de ses plus grands amis, Maurice Reims. Michel Meurt, pourtant, trop inquiet pour être un de ces héros tranchés, irrésolu à la manière d'un Benjamin Constant dont la personnalité rejoint sur plus d'un point la sienne et auquel il consacrera un ouvrage, est resté seul, libre et seul, à essayer de trouver sa place dans la conciliation qui était un rêve impossible. Homme de nuance, dans un temps où les nuances étaient suspectes, voire coupables, incapable de choisir, refusant de s'accorder, très Benjamin Constant en somme, il a vécu cette époque dans un état proche du somnambulisme qui caractérise ses personnages plongés comme lui au cœur du même marasme. Pendant toutes ces années, il a campé ailleurs, non pas au-dessus de la mêlée, mais au-delà, principalement dans ses songes. C'est très agréable d'être un vaincu, dit un de ses personnages. On n'a plus à s'occuper de rien, on ne se sent plus responsable, et c'est très bon pour la littérature. C'est en romancier qu'il va vivre désormais, en témoin de son temps, qu'il va écrire. Je le cite dans les dernières pages de Tombeau de la Rouerie, à qui m'aurait demandé pourquoi je m'étais retiré de toute action politique et militaire, je crois bien que j'aurais répondu comme ce personnage de Valérie Larbeau qui déclare avoir mieux à faire qu'à se marier et à fonder une famille. J'aime mieux lire. Lire, mais aussi écrire. À la Libération, il quitte Marseille, où il exerçait sa profession d'avocat, pour rejoindre à Paris un jeune éditeur marseillais qui tente l'aventure dans la capitale et dont il devient pendant un an le directeur littéraire, Robert Laffont. Mais l'atmosphère lui paraît encore lourde dans un monde fatigué, malade de ses années de guerre, et il n'a qu'une idée en tête, quitter la France, quitter l'Europe, voire du pays. « Mes pas, écrit-il, mes pas me guidaient irrésistiblement vers l'Ouest. » Un an à Montréal, à un poste de directeur littéraire d'une maison d'édition franco-canadienne. Suivi d'un séjour de 6 pleines années aux États-Unis, marque une renaissance. Revanche sur une jeunesse vécue comme une attente amère et douloureuse, l'Amérique va lui rendre l'optimisme et le goût de la vie. Professeur pendant une année entière à Yale, puis visiting professor dans différentes universités, de Middlebury College à Mills College et à Berkeley, il vit sur les campus, au milieu des étudiants et des étudiantes, dans cette atmosphère de joyeuse insouciance qui caractérise la vie universitaire américaine. Libéré des pesanteurs mortifères du vieux continent, Michel Mort s'adonne à l'enseignement de la littérature française. Les jours passent à prendre des notes et à rédiger des cours. À la belle saison, qui dure toute l'année en Californie, il poursuit son enseignement sur les pelouses, aussi confortables que des moquettes, en compagnie de jeunes gens et de jeunes filles qui bronzent au soleil en l'écoutant parler de la princesse de Clèves. À Mills College, l'odeur des eucalyptus entrait par les fenêtres ouvertes des salles de classe et l'on pouvait aller se baigner à la sortie des cours. Le souvenir lui est resté d'après-midi étouffante de chaleur, à l'ombre des arbres, au bas d'une colline où s'élevait une chapelle, il aidait des étudiantes à faire leurs devoirs de français. L'Amérique, il la parcourt d'est en ouest, animé par une boulimie de paysages et de rencontres, une soif insatiable de renouveau. Il en a aimé les grands espaces, les villes tentaculaires, les autoroutes, les déserts. La Californie lui a laissé les images les plus vivifiantes, mais c'est New York qui l'a profondément attaché, peut-être parce que New York, c'est encore un peu l'Europe. New York, dira un de ses personnages, New York veillait sur eux comme une bonne géante. Ils étaient couchés à l'ombre de ses mamelles, abandonnés et confiants, comme des voyageurs qui se roulent dans leur manteau sur la pelouse d'un square pour dormir. La bonne géante, puisque c'est ainsi qu'il voit à travers New York l'Amérique entière, va non seulement lui permettre de prendre un nouvel élan, il va pouvoir, grâce à elle, se réconcilier avec lui-même. Ses anciennes blessures ne seront pas pour autant effacées. Mais l'écrivain, entraîné par des forces vives, va enfin donner libre cours à à une inspiration hédoniste, presque païenne, que le vieux continent avait bridée, en optant, grâce à l'Amérique, pour le naturel contre la décadence, pour la jouissance contre le remords, pour l'amour affranchi contre l'amour coupable. C'est cela l'influence du Nouveau Monde, peint, on l'aura compris, aux couleurs d'un idéal et débarrassé de ses démons, un souffle libérateur, un courant sensuel de joie et de liberté, et un esprit d'accueil et d'ouverture aux cultures multiples. Tous ces traits qui ont fasciné Michel Mort et qu'il a admiré vont s'épanouir dans son œuvre et la remodeler. Les Nomades, roman publié par Albin Michel en 1951, exprime sa dette. D'autres, parmi ses livres, se dérouleront en Amérique où y feront référence. Mais aucun, comme Les Nomades, qui est le premier à traiter le sujet, ne dira avec une telle intensité tout ce qui lui doit. Pierre Talbot, son porte-parole, a traversé avec lui l'Atlantique pour découvrir que des sentiments neufs, des émotions neuves sont encore possibles et l'amour sera au rendez-vous. Roman puissant, écrit Michel Déon. Puissant, profond, diaboliquement composé à plusieurs facettes. La grâce des Nomades était de suggérer cette fuite en avant des Américains et ce retrait des Européens. Au fond, pour Pierre Talbot, poursuit Michel Déon, la vraie tentation des États-Unis restait esthétique. Telle la Bretagne de l'enfance, l'Amérique, c'est le vent d'ouest cher à Michel Mort. Autrement dit, l'élan vital, le désir de créer et l'espoir d'être heureux. Toute l'œuvre lui est redevable. Il est probable que l'écrivain, s'il n'avait un jour traversé l'Atlantique, n'aurait pas trouvé de nouvelles raisons de vivre et nous aurions été privés de pages baignées de soleil et parcourues de belles filles blondes, saines et sportives. Les femmes occupent dans l'œuvre de Michel Mort une place de choix. Elles n'y font pas de la figuration. Ce ne sont ni des muses, ni des femmes fatales, comme chez Drieu-La Rochelle, de simples accessoires du plaisir masculin. Ce sont de vraies femmes, le plus souvent bien plantées, bien en chair, grandes, très grandes même, elles ont l'épaule à la hauteur de celle de leurs compagnons. J'aime les grandes femmes, aux bras puissants, aux yeux vastes comme des lacs. Elles sont meilleures que les autres, douces et câlines. On a envie de se perdre en elles, d'être englouties. Ainsi parle Pierre Talbot. Jennifer, Nancy, Victoria, Grace, Jessie, ces jeunes géantes ont une vitalité exceptionnelle. Pierre Talbot décrit ainsi dans Les Nomades ce qui lui a tellement plu chez les Américaines, la liberté des mœurs, l'ardeur de jouir, l'art de vivre gracieusement, gracious living, la violence des appétits, l'énergie sous toutes ses formes. La force sensuelle ne lui suffit pas. Il recherche l'élégance chez une femme. Dans la campagne d'Italie, Pierre Talbot, toujours lui, dit à Frédéric, qu'il trouve irrésistible, « J'aime ton tailleur et j'aime tes chandails et la façon dont tu t'habilles. J'aime que tu aies tant de chic. À Nice, j'étais fière d'être vue avec toi. » Certaines blouses hongroises, brodées de dessins rouges et bleus, jouent un rôle non négligeable dans l'histoire d'amour des Nomades, où le cœur du narrateur bat pour l'inoubliable Francie, la Hongroise au passé douloureux et incurable rencontrée à New York. Il y a chez Michel Mort une fascination pour l'univers féminin. De la coquetterie aux fantaisies érotiques, sans méconnaître leurs qualités morales et même intellectuelles, il a tout aimé chez elles. Elles sont pour lui, je le cite, « un fruit à mordre, une peau où se coller, une fontaine de jouvence, une terre promise. Que serait la campagne d'Italie sans Frédéric et Nancy, la guerre civile sans Hélène et Béatrice, les nomades sans Francie et Patsy, car elles vont souvent par deux, telles Jessie et Sarah, les deux indiennes à Paris. Et que serait bien sûr la prison maritime sans l'admirable et indomptable Lady Cecilia. Longtemps, sa vie sera faite d'aventures et de liaisons passagères, jusqu'à ce qu'il rencontre un jour, à Rome, la femme qui l'attendait. Ce sera Françoise Mort. Elle promènera à ses côtés pendant près de 50 ans, épaule contre épaule, sa haute et mince silhouette, son visage lumineux et son élégance comme une héroïne de ses romans d'amour. Elle lui donnera un fils, François Mort. Près d'elle, il a su jeter l'ancre, fonder une famille et former ce couple indissociable jusqu'au grand âge que méconnaissent ces personnages de fiction. Avec l'Amérique, son histoire d'amour n'a jamais fini, il n'a jamais tourné la page. De retour à Paris en 1952, il n'a pas cessé d'y revenir, ayant tissé avec elle des liens que rien ne viendra distendre. Deux rencontres ont été fondamentales lors de son exil américain, avec deux intellectuels et érudits français, deux esprits exigeants et libres, épris de littérature, Maurice Edgar Coindreau et Gaëtan Picon. Le premier, alors professeur à Princeton, l'initie au roman américain. J'avais encore de la difficulté à lire Faulkner dans le texte. Sur Faulkner, sur Hemingway et sur beaucoup d'autres écrivains qu'il avait connus et traduits, Maurice Edgar Coindreau m'a apporté ses lumières. Le second, de passage pour une série de conférences, l'homme le plus intelligent que j'ai connu, dira Michel Mort, allait demeurer son conseiller le plus sûr, le plus exigeant, le plus fidèle, selon ses propres mots. Gaëtan Picon inclura un jour dans son panorama des lettres françaises des pages qui rendent hommage à l'écrivain. Entré chez Gallimard en 1952, il a 38 ans, pour diriger le département de littérature anglo-saxonne, puis membre du prestigieux comité de lecture, il le restera pendant plus de 40 ans, Michel Mort a consacré une grande part de sa vie à cette littérature, découverte en Amérique et explorée par la suite avec autant de curiosité que d'esprit de dévouement. Il est l'auteur, pour la Pléiade en 1956, du tome 2 de l'histoire des littératures, littérature d'Amérique du Nord. Au-delà de sa connaissance approfondie du passé littéraire nord-américain, il joue sur le terrain un rôle de passeur en amenant en France les ouvrages de jeunes auteurs américains encore inconnus, tels Robert Penn Warren, Tom Wolfe, John Barth, Philip Roth, dont le Goodbye Columbus est un de ses plus forts engouements, ou encore Jack Kerouac, il préface la première édition française de On the Road. C'est Michel Mort, enfin, qui révèle William Styron au public français et qui va lui-même traduire The Long March, la marche de nuit. En 1955, il consacre un livre au nouveau roman américain. Cet essai comporte des pages très importantes sur Faulkner et sur la littérature en général, qui, sous l'influence de ce sudiste, plus tourmenté que solaire, a pris un nouveau départ. Michel Mort restera un ardent faulknerien. Admirateur de la première heure et soutien sans faille en France de l'écrivain. C'est lui qui rassemble et commente l'iconographie pour l'album Faulkner de la Pléiade, publié en 1995. Album qui est un pèlerinage sur les chemins escarpés et douloureux de cet écrivain que ni la gloire ni le génie n'ont consolé des blessures de la vie et qui disait « Entre le chagrin et rien, je choisis le chagrin ». Il y a chez tous ces personnages, écrit Michel Mort, évoquant les plus fameux comme les plus modestes, un don de spécialité. Ils incarnent un destin qui les dépasse et qui les broie. Faulkner, créateur capital aux yeux de Michel Mort, est la grande référence. Il entretient avec son œuvre un lien privilégié, fait d'amitié, de respect et de secrète connivence. Ce travail passionné de lecteur et de prospecteur, qui l'amène plusieurs fois par an à New York, mais aussi à Londres, c'est le terreau de l'ère du large, recueil choisi de ses lectures, ou plus exactement, de ses enthousiasmes pour les grands auteurs d'outre-Manche et d'outre-Atlantique. Fidèle à ses convictions, Michel Mort y a inclus des écrivains d'autres cultures qui viennent élargir un panorama éclectique, tout entier placé sous l'éclairage de l'ouverture et l'égide de l'admiration, Thomas Mann, Pavès, Nabokov, Tanizaki, Mishima y figurent. Michel Mort a donc passé beaucoup de temps à lire et à défendre les livres des autres. Il fut un serviteur fidèle et loyal de la littérature. Littérature sans limitation de genre ni de frontières. Vaste, audacieuse, généreuse, novatrice, il la servit avec zèle, elle fut sa véritable patrie. Son admiration, la haute conscience d'exercer une mission sacrée, aurait pu le perdre en tant qu'écrivain, envahir et engloutir son propre monde. Naviguant de Faulkner à Styron, il sut cependant rester lui-même à l'ombre des géants. Ainsi qu'il le raconte dans « Ma vie à la NRF », l'édition fut son point d'orgue. Très lié à Gaston Gallimard et surtout à Claude, son fils, il a noué des amitiés avec de nombreux écrivains, de Romain Gary, qui lui donna à lire le manuscrit de Lady L en version anglaise, à Jean d'Ormesson, qu'il fut publié dans la prestigieuse maison avec la gloire de l'Empire. Au comité de lecture, ces comptes rendus faisaient souvent sensation par le pittoresque des analyses et, quand il aimait un livre, et il en aimait souvent, par la fougue de la plaidoirie. Il y soutint un jour, avec sa flamme habituelle et à l'étonnement général, le livre d'un transsexuel anglais, un homme qui avait désiré devenir une femme. Comme on l'interrogeait sur son air devenu soudain songeur, il répondit tout à trac : « Je me demande comment il fera pour porter la cravate de son club ». Ses costumes, d'une élégance toute britannique, provenant de chez un excellent tailleur de Savile Road, ses cravates à rayures club, certaines rayées roses et vertes, Salmon and Cucumber, aux couleurs du célèbre Garrick Club de Londres, dont il fut membre à vie, Michel Mort affichait sa différence avec désinvolture dans le monde littéraire parisien. On le prenait plus souvent pour un colonel de l'armée des Indes que pour un écrivain de la rive gauche. Il ressemblait à un de ces personnages de Graham Greene qui préfèrent brouiller les pistes. « Vous êtes de ces êtres d'exception qui ne font rien pour être aimés et qui le sont d'autant plus. Ainsi, Jean d'Ormesson, qui l'aimait, l'accueillit-il sous la coupole ?» Éclectique et paradoxal, anticonformiste sous l'allure d'un conservateur et doté d'un humour où les Anglais auraient reconnu un de leurs pères, il fut aussi chroniqueur, non seulement critique littéraire, mais critique de cinéma et de télévision au Figaro où il tint une rubrique régulière. Il s'intéressait à ce qu'il a appelé dans un autre de ses livres « l'ère du temps », Rien dans son époque ne l'a laissé indifférent. Curieux de tout, il a promené son miroir tout le long du chemin, en laissant flamber ses passions, n'hésitant pas à défendre, même à l'Académie, sous le portrait du cardinal de Richelieu, l'enseignement des langues régionales, dont le breton, au lycée et à l'université. Il aimait Venise, dont il fut un visiteur fidèle, séjournant plusieurs fois par an dans cette ville, plus propice qu'aucune autre aux chimères. Curieusement, il succédait ici même, au 33e fauteuil, à deux Vénitiens dans l'âme, qui avaient eux aussi beaucoup déambulé dans la Sérénissime, Émile Henriot et Jean-Louis Vaudoyer, figures éminentes du club des longues moustaches et adeptes du rituel du cigare sous le chinois du café Florian. J'avoue, en prononçant leurs noms, que je ne m'attendais pas à les rejoindre moi-même, alors que j'ai évoqué dans une biographie des sœurs Hérédia leur frasque amoureuse et très voluptueuse. Michel Mort, au chocolat du Florian, préférait le whisky et les cocktails détonnants du Harris Bar. Surtout, il préférait sa rêveuse solitude, sa boîte d'aquarelles et ses cahiers de dessin. On pouvait le voir en Lodène, les mains gantées car il fait froid l'hiver sur la lagune, en train d'aquareller assis sur son pliant. Il a tout peint à Venise. Les ponts, les palais, les gondoles, le marché aux poissons, San Giorgio et San Barbaro, la Giudecca et la douane de mer, tout, sauf les musées, qu'il détestait presque autant que les dictionnaires. Il ne s'intéressait qu'à la vie qui s'enfuit si vite. « Que vaut le portrait d'une femme ?» écrit-il. « Fut-elle peinte par le Titien ou par Renoir, à côté d'un être vivant qui marche devant vous, près de vous, avec la grâce d'un beau vaisseau qui prend le large ?» Chez lui, rue du Cherche-Midi, il travaillait sous l'exigeant regard de Berthe Morisot, une reproduction de son portrait par Manet. Il aimait l'exigence chez les artistes et par-dessus tout, je l'ai dit, la vérité. Il avait repris à son compte le précepte de Stendhal, « Être vrai et simplement vrai, il n'y a que cela qui tienne ». Écrivain au style sobre, ennemi de l'effet, détestant la pose et l'artifice, Michel Mort pratique un art de la simplicité et de la sincérité. Il cultive l'écriture blanche. De livre en livre, cette volonté d'atteindre le plus par le moins va s'accentuer, donnant à sa prose une élégance mêlée de nonchalance qui fait oublier le talent sous contrôle et la maîtrise du « storyteller », je reprends un terme dont il était familier. Marie Ferranti le souligne dans « Le paradoxe de l'ordre », le beau livre qu'elle a consacré à l'œuvre de Michel Mort, « Même les silences, je la cite, sont pesés au trébuchet ». Dans son époque, Michel Mort fut à contre-pied, méfiant à l'égard de la littérature engagée qui embrigadait bon nombre de ses contemporains, attentif au contraire à se tenir désengagé, il ne fut ni de l'école du nouveau roman, sur laquelle il porte un regard amusé d'entomologiste, ni du clan des hussards, auquel il ressemble par plus d'un trait et parmi lesquels il compte des amis. Il n'appartient à aucun des mouvements littéraires pas plus que politiques contemporains. Le voici tel qu'en lui-même, un écrivain seul, libre et seul, rebelle au mode de son temps, qu'il a pourtant su comprendre et analyser. S'il n'est pas un auteur à la célébrité tonitruante, son œuvre garde les qualités qui font aimer depuis toujours la littérature. de vrais personnages, de belles histoires, une atmosphère de magie, le sens de l'enchantement. Il échappe à l'étroitesse dans laquelle, parfois, se cantonne le roman français. Il ne cède pas à la tentation du beau style. Son esthétique est avant tout pour lui une éthique. Écrire vrai, écrire juste, voilà son assaise. Assaise qui atteint un paroxysme dans « Le télésiège » ou dans « On liquide et on s'en va », récit à la brièveté implacable et aux dialogues acérés. Cette discipline s'inspire d'une conviction très stendhalienne. En art, le beau, c'est-à-dire l'accord parfait d'un livre, se confond avec le vrai. Vérité non pas objective, mais intérieure, elle a partie liée avec l'acte créateur. Elle est dans les mots, dans les phrases, et même dans ces silences, qui, comme un vertige, maintiennent dans les livres pourtant si clairs, si lumineux de Michel Mort, un certain mystère. Le romanesque, écrit Paul Vendrome à son propos, le romanesque, c'est le mystère inaccessible à la pleine lumière. Quel sera le jugement de la postérité sur Michel Mort? Nul ne le sait. Mais si la notion de littérature veut encore dire quelque chose, et on le souhaite, il y aura alors toute sa place. Dans une pièce de théâtre, écrite quand il avait déjà passé 80 ans, la leçon de morale dans une loge. Il imagine un dialogue entre Henri Bell, qui n'est pas encore Stendhal, et le vieux Chauderlot de Laclos, dont les routes se seraient croisées à Milan. J'aimerais citer la dernière réplique que Michel Mort attribue à Laclos, mais où je reconnais sa voix. L'important n'est pas d'écrire quand tout le monde écrit. L'important, c'est de se connaître. Il faut pouvoir se dire à la fin d'une vie, je n'ai pas été général ou ambassadeur ou académicien, mais j'ai été bien plus heureux. Pour l'avoir rencontré souvent, depuis l'époque déjà lointaine, où Simone Gallimard, qui était son amie, publiait mon premier roman, jusqu'à ces dernières années, où nous nous retrouvions sous l'égide de Berthe Morisot, ce sont ses yeux que je revois, ses yeux d'océan. Et dans ses yeux passent tous les personnages de ses romans qui ont inspiré ce rêveur éveillé. Le petit garçon qu'il fut à l'ombre de son père, chantant les romances que sa mère jouait au piano dans la maison de Morlaix. Le jeune avocat au barreau de Marseille, à la fois mélancolique et séducteur des épouses en mal d'amour. Le lieutenant de la campagne d'Italie, dans l'attente d'un combat et d'une gloire qui ne viennent pas. Le compagnon de Bassompierre, grand blessé de l'histoire, fidèle aux amis perdus. Le professeur, sous le ciel californien, ébloui par l'Amérique et ses belles naïades. Tous ces personnages de la vie réelle, réorchestrés dans l'imaginaire, est devenu à la fois ses doubles et ses créations. Ils sont vivants, présents, marchant dans Paris ou dans New York au bras de deux indiennes, ou transportés jusqu'à nous sur le roi Arthur, le beau voilier de Lady Cecilia. Elle aussi, indissociable de l'œuvre dont elle est la figure de proue, reconnaissable à sa fière silhouette et à la longue écharpe qui lui entoure le cou et flotte dans son sillage au gré du vent. On n'entre jamais seul à l'Académie française. On y entre avec les ombres chères de ceux qui ne sont plus. On y entre aussi avec l'admiration que l'on porte à ceux qui y sont, eux-mêmes dépositaires, d'une part de l'esprit des grandes figures qui les ont précédées. Chacun, chacune d'entre vous a dû éprouver en son for intérieur ce regret poignant qu'évoquait François Mauriac et que j'éprouve à mon tour. François Mauriac se désolait de ne pouvoir retrouver Maurice Barrès quai de Conti. « C'était hier, il me semble, écrivait-il, il pourrait être là, je m'assiérais à côté de lui le jeudi. » Michel Mort ne sera pas là le jeudi.
Madame, quel bonheur de prononcer ce mot pour accueillir un nouveau membre sous cette coupole. Et puisque ce bonheur est encore trop rare, je vais le prononcer à nouveau. Madame, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous de voir une nouvelle femme rejoindre notre compagnie. Cette satisfaction est aujourd'hui redoublée car non seulement vous êtes une femme, mais toute votre œuvre est dédiée aux femmes, à leur talent, à leur lutte, à leur création. Notre secrétaire perpétuel a décrit en détail dans son ouvrage consacré à l'histoire de cette compagnie les rapports anciens et complexes que l'Académie a entretenus depuis sa création avec les femmes, notamment par le biais des salons. On ne peut ignorer cette longue histoire. Toutefois, il reste que l'élection de Marguerite Yourcenar a marqué une rupture avec les 3 siècles et demi qui l'ont précédée et constitue une date clé de notre histoire. C'était le 6 mai 1980, il y a déjà 35 ans, il y a seulement 35 ans. J'appartiens à la génération de celles et ceux qui ont toujours connu la mixité dans cette académie. Et je suis frappé de constater combien il paraît désormais absolument naturel que les femmes y soient présentes. Il est presque inconcevable d'imaginer qu'on ait pu débattre ici d'une telle question et surtout qu'on y ait si longtemps répondu par la négative. Que de grands écrivains aient pu être si longtemps empêchés de nous rejoindre parce qu'il s'agissait de femmes semble aujourd'hui incompréhensible. Le fait que très rapidement une femme ait occupé le poste de secrétaire perpétuel a contribué évidemment à l'installation complète et durable des femmes dans l'institution. On me dira que cette prestigieuse responsabilité occulte le fait que, du point de vue quantitatif, la présence féminine reste encore très minoritaire. C'est vrai. Pourtant, cette perception comptable du problème ne reflète en rien l'état d'esprit qui règne parmi nous. Les femmes dans cette compagnie ne sont pas un groupe, un nombre, un quota. Elles sont des personnalités singulières, chacune unique et précieuse, et leur apport ne se mesure pas à leur importance numérique. Combien sommes-nous, par exemple, à avoir passionnément aimé Jacqueline de Romilly ? Un de nos regrettés confrères, farouche opposant à la féminisation, mais qui a su par la suite s'adapter à cette évolution, tenait à ce que l'Académie restât, je le cite, « une tribu de vieux mâles qui campent au bord de la Seine depuis 4 siècles ». Grâce à chaque nouvelle femme, la compagnie s'éloigne un peu plus de ses sociétés d'hommes entre eux, les armées d'autrefois, les monastères ou les clubs anglais, pour lesquels, en ce qui me concerne, je n'ai jamais montré aucune attirance. Notre diversité, en tout domaine, est source de richesse et de bonheur, nous accueillons chacune et chacun avec une curiosité teintée de gourmandise et, sachez-le, de bienveillance. Aussi vais-je tenter maintenant de présenter en quelques mots la personne que vous êtes, votre histoire, vos passions, vos œuvres et vos attentes, en sachant que nous aurons pour approfondir ces sujets toute une vie commune. Vous êtes catalane, madame, et vous tenez à cette origine. Elle manifeste l'enracinement de toute votre parentèle. Vous êtes en effet issue d'une double lignée de Catalogne par votre père et par votre mère. Peut-être éprouvez-vous d'autant plus le besoin d'affirmer cette identité méridionale qu'elle n'est pas très évidente. Votre blondeur, vos yeux clairs, votre taille élancée vous donnent plutôt un charme flamand. Faut-il y voir la trace des Visigoths qui ont peuplé ce territoire méridional dans l'Antiquité ? À moins que plus près de nous, l'Empire des Habsbourg, unissant ses possessions ibériques aux Flandres, n'ait été la cause de cette explosion nordique dans ce coin du littoral méditerranéen. Jusqu'à l'âge de 10 ans, vous parlez avec ce bel accent catalan que vous regrettez d'avoir perdu, et nous aussi d'ailleurs, car il aurait résonné avec bonheur sous cette coupole. L'accent, c'est la fidélité, affirmait votre père. Et inconsolable de ce reniement, vous dites « J'ai grandi dans l'exil ». C'était le prix à payer en arrivant à Paris pour être conforme. Mais si ces traces visibles de ces premières années ont disparu, les souvenirs, eux, sont bien là. Vous êtes né dans la maison de vos grands-parents maternels, avenue de la Gare, à Perpignan. En ces temps heureux, si lointains qu'ils paraissent, alors qu'ils sont en vérité bien proches, l'accouchement était un événement normal de la vie et les enfants pouvaient voir le jour à la maison. C'est ainsi que votre mère vous a mis au monde dans la chambre de sa propre mère. On imagine les chuchotements de femmes, le va-et-vient des cuvettes en émail, les linges tièdes. Et au rez-de-chaussée, le père anxieux, heureux quoi qu'il arrive, si c'est un fils, il portera son nom, et si c'est une fille, elle sera une vestale de plus vouée à son culte. Car vous le reconnaissez avec un regard de défi. Vous avez été élevé selon la pure tradition d'une famille catalane dans laquelle l'homme est le roi. Il est servi avant les autres, exprime ses volontés qui règlent le cours de la vie collective, son autorité n'est pas discutée. Ce monarque, chez vous, porte un nom qu'on croirait emprunté à un chevalier de la Table Ronde. Arthur Comte, le comte Arthur, votre père, souverain en sa maison et élu en sa région, personnage considérable par sa stature, sa voix rocailleuse, sa carrière brillante. Député à 30 ans au sortir de la guerre, ministre sous la 4e République, président de l'ORTF à l'époque où cette forteresse régnait sur un audiovisuel exclusivement public, on imagine Arthur Comte dans son donjon, bien protégé par la muraille circulaire de la maison de la radio, si semblable à un château fort qu'on s'étonne de ne pas le voir entouré de douves et accessible par un pont-levis. Mais Arthur Comte n'est pas seulement un homme d'action et de responsabilité. C'est un homme passionné par l'écriture. Ses études ont été écourtées par la guerre et il est entré tout de suite dans l'arène politique. Cependant, sa passion profonde, c'est d'écrire. Vous le verrez sans cesse un stylo à la main quand il est à la maison. Il vous fera d'ailleurs ce très beau cadeau, dont on peut penser qu'il n'est pas étranger à votre vocation future. Il vous apprendra lui-même à lire. C'est que votre frère, en naissant 7 ans après vous, vous a laissé tout loisir d'être élevé comme une enfant unique et votre père, très aimant, vous a donné longtemps toute son attention. À travers lui, vous avez connu une Catalogne rurale qui vous a profondément marqué. Car cet homme politique, familier des ors de la République et des grandes institutions de l'État, est d'origine très modeste. Ses parents étaient, comme vous le dites joliment, des paysans de la vigne. Vous gardez le souvenir, l'hiver, de ces feux de sarment dans leurs bastides, vers lesquels se tendaient les mains pour trouver un peu de chaleur. Dans cet univers agricole, Les conversations sont chantantes et les échanges se font encore dans la langue catalane. Ce sera d'ailleurs la langue maternelle de votre père. Il n'a appris le français qu'en entrant à l'école vers 5 ans. Ainsi, dès votre plus tendre enfance, vous contractez à jamais cet amour du Sud que vous ne limitez pas à la Catalogne, mais qui en procède. Cet amour vous fait vous sentir chez vous dès que le soleil est chaud, que les grillons chantent, qu'éclate le bleu de la mer et le vert des pinèdes, le rouge de la terre et l'or des vignes mûres. Dans ce monde catalan, où règne l'homme, les femmes organisent leur vie à part et votre œuvre portera la trace de ces univers féminins que vous aimez. Car placer l'homme sur un piédestal, bien des femmes le savent, c'est évidemment un moyen de s'en débarrasser. On lui rend hommage, on feint de l'écouter, on accepte de le servir, mais en contrepartie, on est libre. Dans votre famille, les femmes voyagent seules, par exemple. Vous avez découvert Madère, les Baléares, Rome, dans la seule et joyeuse compagnie de votre mère et de votre grand-mère. Cette grand-mère maternelle, issue, elle, d'une lignée de Catalans de la ville, hommes d'affaires prospères qui ont bâti une des plus grandes fortunes locales, est une femme cultivée. Elle exercera sur vous une profonde influence et guidera vos lectures et vous donnera très tôt le goût et la connaissance des arts. Ce monde des femmes entre elles, qui nourrira si profondément votre œuvre de romancière et de biographe, suscite en vous des sentiments ambivalents. À la fois, vous n'auriez pas voulu devenir votre mère ni votre grand-mère. Vous jugez qu'elles ont sacrifié leur vie, leur talent, leurs dons à une vie de famille qui les a bridées. Et en même temps, vous les admirez et vous êtes attaché autant qu'elles à ce modèle familial. Cette tension entre les désirs, les passions, le génie d'une femme d'une part et de l'autre, les contraintes d'un univers social auquel elle se conforme malgré tout, constitue le noyau même de votre imaginaire créatif. Cette tension ne sera pas seulement dans votre œuvre, elle marque d'abord votre vie. Ainsi, désireuse par-dessus tout d'échapper au destin de votre mère, vous allez commencer par le reproduire. Vous vous mariez à 20 ans et à 25, vous êtes déjà la mère de 2 enfants. Cette situation vous rend profondément heureuse. Vous aimez votre mari, vous êtes une mère attentive et comblée. En même temps, vous ne vous résignez pas. Vous ne voulez pas étouffer votre curiosité, laisser la vie familiale et sociale vous éteindre ni vous soumettre. À votre manière, si délicate et polissée, vous êtes une révoltée. Cette révolte ne prendra jamais la forme politique. Mai 68 ne semble pas avoir eu sur vous une grande influence. Sans doute n'étiez-vous pas encore à l'âge où de tels événements pouvaient tracer pour vous une voie personnelle. Le chemin de la révolte sera pour vous d'abord et toujours celui du rêve. La création vous fascine. Elle sera votre passion pour la vie. La création des autres en premier lieu, celle de tous les auteurs que vous admirez et aimez. C'est pour les mieux connaître que vous poursuivez des études de lettres à la Sorbonne. Comme vous êtes une élève brillante, vous visez haut et vous devenez agrégé de lettres modernes. Ce qui pour tant d'autres aurait été un accomplissement n'est pour vous qu'un début. Vous ne vous destinez pas à l'enseignement et le journalisme sera votre première activité professionnelle. Vous écrivez des chroniques dans diverses radios et vous collaborez au Quotidien de Paris et au Figaro. Vous ne cesserez jamais de garder avec le journalisme littéraire une fenêtre sur l'actualité de la création. Mais l'essentiel, on le sent bien, est ailleurs. Derrière la création des autres pointe déjà le désir irrépressible d'une création personnelle. De 25 à 30 ans, vous ne publiez encore aucun livre. Mais cette époque est celle que chaque écrivain connaît bien. C'est le temps de la distillation du rêve, le temps des premiers brouillons, des ébauches, des repentirs. C'est le temps des audaces inabouties et de la frayeur créatrice. Le temps où l'on se convainc soi-même que quelque chose est possible, mais où l'ombre des grands auteurs obscurcit encore l'horizon et donne à penser les soirs de doute que nos forces sont encore bien insuffisantes et notre talent bien petit pour que nous espérions jamais paraître sur la scène à notre tour. Mais c'est aussi le temps où mûrissent les idées, où s'enracinent les rêves, où se forge cet outil qu'est le style. Le hasard, par un singulier détour, sert vos desseins secrets, car votre mariage, d'une manière inattendue, vous apporte un surcroît de rêve et la personnalité de votre mari vous apporte la matière de ce qui sera l'un des thèmes principaux de votre création romanesque. Philippe Bonnat est un homme du Sud, lui aussi. Et c'est un autre Sud. La Corse, d'abord, par ses origines familiales, mais surtout l'Amérique latine. Car son aïeul fut de ces Corses qui se sont expatriés pour chercher une vie meilleure. Il s'est fixé dans l'île de Saint-Domingue, où il a créé un hôtel renommé qui existe d'ailleurs toujours dans la capitale. Issu de cette lignée corse par son père et de la Caraïbe par sa mère dominicaine, Philippe aura une éducation cosmopolite de New York à Panama en passant par l'école des Roches. Ses origines sont déjà poétiques. Son activité le sera tout autant. C'est un expert en parfum. Un homme d'affaires, donc, mais qui ne vend pas des biens ordinaires. Son savoir s'attache à ces produits subtils que sont les arômes, domaine où il est question de fleurs et d'animaux, de fruits, d'épices et d'écorces, de résines et d'humeurs. On imagine l'effet que peut produire une telle activité sur un esprit romanesque tel que le vôtre. Ajoutons à cela que l'entreprise dont Philippe a la charge opère à Paris, en Amérique latine et à Miami. Votre fils, présent parmi nous aujourd'hui, assure désormais dans cette ville la charge de poursuivre la tradition familiale. Le décor est planté, l'élixir est versé dans la cornue déjà chaude de votre imaginaire. Il est intéressant d'observer comment s'opérera chez vous la transposition littéraire qui puise dans la réalité pour construire un univers romanesque. Car, en la matière, vous vous classez bel et bien parmi les écrivains qui rejettent toute autofiction, c'est-à-dire tout récit directement fidèle à l'expérience existentielle. Vous n'écrivez pas non plus des récits de voyage, même quand le voyage est à la source de votre inspiration. Très intéressante est à cet égard la genèse de l'un de vos tout premiers romans, intitulé « Argentina ». À l'époque où vous concevez ce livre, votre mariage récent vous fait côtoyer un mari qui accomplit de fréquents voyages en Amérique du Sud. Il vous en parle, et les noms qu'il évoque sont une promesse merveilleuse. La Terre de Feu, le canal de Beagle, le détroit de Magellan. Hélas, il vous est encore impossible de l'accompagner. Ces destinations fabuleuses sont un appel au rêve, et par le rêve, vous prenez le départ que la vie concrète vous interdit encore. L'Argentine, vous irez avec les héros de votre roman. La force du désir trouve son assouvissement dans la force des mots. Vous imaginez ainsi sur une longue période de temps, le roman commence après la Première Guerre mondiale, l'arrivée d'un Français, qui se nomme Jean Flamand, venu chercher fortune en Argentine. Il épouse Sarah Goldberg, la fille du puissant homme d'affaires qui lui a donné sa chance. Mais une métisse d'une grande beauté, Tadea, va venir troubler cet ordre familial et introduire la passion dans ces vies qui s'en croyaient préservées. Les paysages que vous décrivez contribuent fortement à donner à ce roman un charme et une puissance particuliers. Pourtant, à l'époque où vous écrivez, vous ne les avez jamais vus, autrement que par les yeux de celui que vous aimez. Quant aux personnages, il s'inspire bien évidemment de l'histoire de cette belle famille qui continue de vous fasciner. Vous vous en inspirerez encore, quoique de façon moins directe, pour écrire le manuscrit de Port-Ébène. Avec cet ouvrage, vous avez atteint la maturité romanesque. Sa composition est complexe. Elle met en regard les mémoires d'une jeune bordelaise qui rejoint son mari à Saint-Domingue et les réflexions de l'éditeur qui prend connaissance de son manuscrit. Là encore, vous vous appuyez sur le récit familial, mais en opérant toujours une légère transposition. Ainsi, situez-vous l'action dans cette partie de l'île de Saint-Domingue que l'on appelle aujourd'hui Haïti, et non du côté dominicain, là où s'enracine la ligne écorce dont est issu votre mari. Comme pour Argentina, vous commencez par décrire une terre qui vous fait rêver, mais vous ne vous y rendrez que par la suite. Ce roman vous vaudra le prix Renaudot en 1998, distinction qui avait été précédée quelques années plus tôt par le prix Interallié, décerné pour Malika, portrait troublant d'une jeune marocaine. Ces réussites éclatantes dans le roman cachent cependant l'essentiel. Elles donnent l'impression que vous avez trouvé dans la fiction romanesque la forme qui conviendrait seule à votre esprit et à votre curiosité. Ce n'est pas tout à fait exact. Très tôt, en effet, vous allez explorer une autre voie qui deviendra peu à peu prédominante. Je veux parler de la biographie. Peut-être parce que vous avez eu dès l'enfance l'exemple de votre père avec sa double activité d'homme d'écriture et d'homme d'action, vous avez toujours porté à la vie des écrivains une attention particulière. Vous vous intéressez à leurs œuvres, bien sûr, mais vous vous refusez à les considérer comme des créations abstraites. L'œuvre est pour vous indissociable de l'être qui l'a produite. Les auteurs sont des personnages de chair et d'os. Et si j'ose le dire ainsi, c'est surtout leur chair qui vous intéresse. Je veux dire leurs désirs, leurs passions, leurs tourments et leurs joies, leurs douleurs et leurs faiblesses. Ici encore, comme pour la fiction romanesque, ce n'est pas l'expérience directe qui vous inspire. Vous ne parlerez pas d'écrivains que vous connaissez. C'est le mystère de l'inconnu qui exerce sur vous sa fascination. Comme vous le dites avec lucidité, j'écris parce que je ne sais pas. Ainsi de votre premier objet d'étude, Romain Gary. Vous ne l'avez jamais rencontré. La biographie que vous lui consacrez paraît en 1987, 7 ans après sa mort. Ce texte sera remarqué par notre compagnie qui lui décerne son grand prix de la biographie. Ce Gary, vous ne l'avez donc pas connu, mais par les témoignages que vous avez recueillis, par l'attention que vous lui portez, par la manière indirecte que vous avez de l'éclairer, vous le faites découvrir en profondeur, vous effleurez des zones enfouies de sa personnalité qui le révèlent, en un mot, vous le faites vivre. On trouve dans cette première biographie le mariage troublant d'un style classique d'une grande pureté et d'une attention portée aux pulsions, aux passions, aux zones obscures d'une personnalité, comme si cet outil de lumière, qu'est une langue classique, dur et tranchant à la manière d'un scalpel, était le meilleur instrument pour se frayer un chemin dans les passions, pour débrider les blessures de l'âme, pour drainer d'invisibles abcès enfouis dans les profondeurs d'un esprit. Ce courant biographique, dans votre œuvre, va prendre le pas petit à petit sur le roman. Mais doit-on les opposer ? N'est-il pas très évident, lorsqu'on vous lit, que vous écrivez des biographies de romanciers ? Encore faut-il s'entendre sur les mots. Vous avez dû souvent vous interroger sur cette question, vous qui êtes biographe de romanciers biographes, tels que Stefan Zweig ou André Mauroy. Qu'est-ce qui distingue vraiment une biographie écrite par un romancier d'une autre rédigée par un historien ? Serait-ce la précision ? Pas vraiment. On connaît bien des romanciers qui mettent beaucoup de soin dans leur biographie, et peut-être, hélas, quelques historiens qui se donnent des libertés. Serait-ce le style ? Pas davantage. Nous avons tous à l'esprit des biographies d'historiens écrites dans une langue somptueuse et, hélas, quelques biographies de romanciers qui méritent moins d'éloges. Non, vraiment, la notion n'est pas facile à définir. Pour la cerner, je vais recourir à un exemple personnel. Un de nos amis historiens, Éric Roussel, a entrepris, voici quelques années, d'écrire une biographie de plus de 1100 pages consacrée à Jean Monnet. Est-ce ma faible connaissance du personnage ou les préjugés que j'avais à son sujet ? Quand Éric Roussel m'entretenait de son travail, j'avais le plus grand mal à m'y intéresser. Puis voilà qu'un jour, il me dit « Sais-tu comment Jean Monnet s'est marié ?» Il me raconta alors l'histoire suivante. Au cours d'un dîner, Jean Monnet rencontra un couple de jeunes mariés, et tomba instantanément amoureux de la femme. Le coup de foudre fut réciproque et Jean Monnet enleva la belle épousée. Jean Monnet. Le mari était un aristocrate italien particulièrement jaloux qui poursuivit les deux amants et menaça son rival des pires vengeances. Monnet et sa bien-aimée durent donc s'enfuir et allèrent jusqu'en Chine, où il devint banquier auprès de Chiang Kai-shek. Il faudra l'intervention de Staline pour dénouer ce drame. Celui-ci accueillit en effet les amants à Moscou, leur permit de prendre pour 48 heures la nationalité soviétique, et comme le divorce était autorisé en URSS, il leur rendit la liberté dont ils avaient besoin pour se marier. En entendant cette histoire, le romancier que je suis s'est écrié « Je comprends maintenant qu'on ait envie d'écrire une biographie de Jean Monnet. Mais si je devais m'y consacrer et si l'ouvrage devait faire 1100 pages, j'en utiliserais 1000 à son mariage et quelques dizaines seulement à la communauté du charbon et de l'acier. » Si j'ai évoqué cette anecdote, c'est parce qu'elle révèle mieux que toute définition ce qui constitue à mes yeux le point de vue spécifique du romancier lorsqu'il entreprend une biographie. Elle éclaire surtout ce qui fait la spécificité de votre œuvre de biographe. Le romancier entre dans une vie par les passions. La lumière dont il éclaire son personnage est celle ardente qui naît des flammes du sentiment. Parmi vos biographies, il en est une qui porte tout particulièrement la marque de cette méthode, c'est celle d'André Mauroy. Intitulée « Il n'y a qu'un amour » et placée dans le genre roman, ce texte est une véritable biographie solide et rigoureuse de l'écrivain André Mauroy. Mais le prisme à travers lequel vous le regardez est celui de la passion amoureuse. C'est d'Émile Herzog qu'il s'agit, l'homme derrière l'écrivain, le patronyme derrière le pseudonyme. Et l'instrument de cette révélation, ce sont les femmes. Autant que le portrait d'un homme, c'est celui des trois femmes qu'il a aimées que vous nous proposez. Tout autant que d'André Mauroy, ce livre est une biographie de Jeanne Wanda de Szymkiewicz, la jeune polonaise, de Maria Rivera, l'actrice péruvienne, et de Simone de Cavaillé, la grande bourgeoise parisienne. De même, dans votre tout dernier livre, « Je suis fou de toi », qui paraît cet automne, vous nous donnez de Paul Valéry une image surprenante et nouvelle. En choisissant un homme qui avait fait si publiquement le choix de la raison, au point de prétendre l'incarner au moyen de pensées ciselées, froides comme des décrets romains, vous montrez que rien ni personne ne résiste à votre méthode. Valéry, grâce à vous, sous nos yeux, devient fou. Littéralement fou d'amour. Cette ultime et douloureuse passion l'humanise et fait réapparaître l'homme derrière l'œuvre. Paradoxe, cette part éphémère d'une vie, l'amour, la passion, est peut-être ce qui la rend intemporelle, éternelle. L'œuvre de Paul Valéry, ou celle d'André Mauroy, peut vieillir, passer de mode, avant de revenir ou peut-être de disparaître. Le récit de leur passion, lui, conserve une fraîcheur qui le rend immédiatement vivant pour quiconque et en tout temps. Qui sait s'il ne s'agit pas là de la mission essentielle du romancier quand il se fait biographe ? Exhumer dans l'intimité des êtres leur part la plus fragile, la plus inavouable parfois, l'amour, la violence des passions qu'ils tentent le plus souvent de dissimuler, voire de combattre, qu'ils jugent frivoles et infiniment moins essentielles que leur œuvre et qui pourtant donnent à celle-ci une force et une permanence qu'elle n'aurait pas atteinte par les seuls moyens de la raison. Vous montrez pour y parvenir une exceptionnelle capacité d'empathie. Aimer davantage la vie que le sens de la vie, disait Dostoïevski. Peut-être est-ce là ce que Valéry a fini par apprendre en devenant fou. En mettant en scène ces amours, vous faites paraître au premier plan des personnages de femmes. En contrepoint d'une histoire littéraire et politique presque entièrement occupée à l'époque par les hommes, vous révélez comme en négatif, à moins que ce n'en soit plutôt le positif, un autre tableau, la même histoire, mais vue par les femmes et avec elles. Les femmes qui vous intéressent ne sont pas celles qui exploitent le génie sans le comprendre. Vous ne vous intéressez pas aux Odettes de Crécy. Vous ne vous passionnez guère non plus pour les femmes qui vivent à l'ombre d'un grand homme en lui apportant la paix du foyer et le confort du quotidien. On chercherait vainement dans votre œuvre une biographie de Madame de Gaulle. Ce qui constitue pour vous un inlassable objet d'intérêt et d'étude, ce sont les femmes qui prennent toute leur part dans la création. Parfois, cette création est celle d'un autre, comme Gala, avec Paul Éluard, puis Salvador Dali. Parfois, la création féminine est au deuxième plan, comme pour Clara, dont l'œuvre est obscurcie par celle de Malraux. Parfois, la création féminine est magistrale, en elle-même, comme pour Camille Claudel ou Berthe Morisot. Mais ces catégories n'ont presque pas de sens pour vous. Car à vos yeux, si je vous ai bien lu, les œuvres ne sont pas des entités abstraites, nées dans une conscience unique. Les œuvres, et tout particulièrement les chefs-d'œuvre, sont le fruit d'une relation, d'une interaction humaine qu'on appelle la passion. Dans cette alchimie, l'œuvre est un précipité, née de la rencontre de deux substances mentales qui entrent en fusion et déclenchent une réaction souvent violente, parfois mortelle. Vous avez le talent de décrire en détail, étape par étape, ces processus mystérieux. Le couple que forment Clara et André Malraux est un des plus passionnants exemples de cette élaboration tumultueuse du génie. Clara ne crée pas André, pas plus qu'elle n'écrit ses livres. Mais pourtant, la voie royale, ou la condition humaine, s'élabore avec elle, pour elle, et finalement, contre elle. On s'est souvent demandé ce que serait Camille sans sa rencontre avec Rodin. Mais une part de l'œuvre de Camille se trouve peut-être aussi dans l'influence qu'elle a pu avoir sur le travail du maître. Un des personnages les plus complexes auxquels vous vous êtes attaqué est sans nul doute à cet égard Berthe Morisot. À la fois peintre et modèle, elle nourrit pour Édouard Manet une passion dévorante. Mais toute l'énergie qu'elle mettra à contenir cet amour, à le cacher en épousant le pâle frère du grand peintre, elle la laissera éclater dans son œuvre. Au cœur de votre méthode biographique, il y a cette phrase de Zweig qui figure dans une de ses lettres à Romain Rolland : « Il n'y a pas de force plus créatrice que l'amour. » En observant les femmes, on perçoit mieux le rôle créateur de la passion, car elles utilisent moins l'artifice viril qui consiste à ne montrer que l'œuvre et à faire disparaître tous les moyens qui ont permis de l'élaborer. L'un des plus étonnants à cet égard est ce même Stefan Zweig dont vous avez écrit la biographie. Jamais un homme n'aura si bien décrit les femmes et l'amour, et pourtant sa vie sentimentale reste un mystère. Derrière le paravent commode de sa liaison plutôt maternelle avec Friederike Maria von Winternitz, se dissimulent des relations charnelles troubles et sur lesquelles il sera sans doute à jamais impossible de connaître la vérité. Les femmes sur lesquelles vous vous êtes penchés sont, elles, sinon plus transparentes, du moins plus ouvertement multidimensionnelles. La création chez elles ne dissimule pas la vie. Les relations familiales, amoureuses, affectives sont plus apparentes et même occupent souvent la première place. C'est que d'abord, toutes ces femmes ont dû se battre pour imposer à leur milieu une vocation qui n'était pas inscrite dans le destin classique d'épouse et de mère, seul modèle qui leur était proposé. Pour la plupart, ce sont des femmes d'origine bourgeoise, aisée et même parfois riche. La norme sociale pèse sur elles de tout leur poids. Si certaines choisissent la rupture, comme Camille Claudel ou à un moindre degré Clara Malraux, d'autres ont le souci de ne pas couper tout lien avec leur milieu. À bien des égards, nombre de vos héroïnes vous ressemblent. Je pense à Berthe Morisot, peignant dans le salon familial et enfermant son matériel de peinture dans un placard le soir quand venait l'heure du dîner. Vous avez commencé, vous aussi, en écrivant sur la table de la salle à manger et en débarrassant les feuilles le soir avant de mettre le couvert. J'ai déjà dit que vous ne vous exprimiez pas en termes politiques. Pourtant, c'est bel et bien à une révolution que vous nous permettez d'assister en évoquant ces femmes qui sont chacune à sa manière, et vous aussi, des combattantes de la cause féminine. Les choses ont progressé. Vous disposez aujourd'hui d'un joli petit bureau, tapissé en jaune de Naples, et vous travaillez sous le regard sévère d'André Mauroy, dont le buste trône sur une petite cheminée. Ce progrès est bien de votre manière. Vous avez imposé votre créativité sans compromettre votre vie de famille. Et vous entrez parmi nous de la même façon discrète, mais déterminée, plus volontaire que bien des porteurs de drapeaux. Car vous n'ignorez rien, non plus que vos modèles, de la force des préjugés que les femmes ont dû vaincre pour imposer leur talent. C'est vous-même qui rapportez ce jugement terrible de Manet à propos de Berthe Morisot dans une lettre qu'il adresse à Fantin Latour. « Je suis de votre avis, écrit-il, les deux sœurs Morisot sont charmantes. C'est fâcheux qu'elles ne soient pas des hommes. Cependant, elles pourraient, comme femmes, servir la cause de la peinture en épousant chacune un académicien et en mettant la discorde dans le camp de ces gâteux. » On rit aujourd'hui de telles bêtises, mais imagine-t-on ce qu'une Berthe Morisot, amoureuse et sûre de sa vocation, a pu souffrir de lire de telles pensées dans l'esprit de l'homme qu'elle aimait et qu'elle admirait. Et l'on comprend quelle victoire représentait pour une telle femme d'être reconnue à jamais comme un grand peintre. En vous lisant, on mesure à quel point pour vous l'univers féminin est puissant, anticonformiste et fécond. Certaines de vos héroïnes poussent très loin l'exploration de leur passion. Ainsi, les trois sœurs Heredia, filles de poètes, et qui, si elles ne créent pas elles-mêmes, feront de leur vie singulière des œuvres pleines d'originalité, d'excès et de vérité. Le livre que vous leur consacrez est sans conteste un des plus étonnants, plein de la force de vie, de la puissance des passions, de l'audace morale et intellectuelle de ces êtres exceptionnels. Vous aimez beaucoup décrire ces relations de femmes entre elles, en particulier de sœurs, et cette dimension qui fait presque toujours défaut dans les portraits de femmes peints par des hommes est un des traits les plus caractéristiques de votre production de biographe. Les sœurs Heredia, les deux sœurs Roire, les sœurs Morisot, pour ne citer que les plus fameuses, mais on en trouverait bien d'autres, et je suis sûr que votre œuvre à venir nous en fera découvrir encore. Vous aviez jadis consacré un mémoire de maîtrise aux fées et aux sorcières dans la littérature du Moyen-Âge. Ce que nous savons maintenant de vous laisse penser que tout votre travail depuis cette lointaine époque n'a fait que poursuivre cette observation des pouvoirs féminins, pouvoirs naturels et surnaturels, pouvoirs maléfiques et propitiatoires, pouvoirs célébrés et pouvoirs condamnés, les fées et les sorcières. L'Académie française semble à première vue bien éloignée de cet univers magique. Ce n'est peut-être qu'une apparence. Car vous verrez que sous cette coupole, quand les projecteurs sont éteints, prend des couleurs de sous-bois. En observant nos costumes, vous y reconnaîtrez les troncs verts rabattus des mousses et des frondaisons. En cheminant dans ces murs, vous serez frappé d'y rencontrer d'innombrables et troublants fantômes. Cette compagnie n'est peut-être pas si éloignée du monde arthurien auquel vous avez longtemps songé, et vous pourrez continuer à y rêver aux elfes et aux dryades. Vous allez maintenant prendre place parmi nous. C'est un moment solennel. Le fauteuil qui vous est destiné fut jadis celui de Voltaire. C'est impressionnant, bien sûr, mais ne soyez pas troublés. Songez qu'il aurait certainement été heureux de savoir qu'une femme telle que vous lui succéderait un jour. À ses lumières, vous allez apporter vos ombres. À son rationalisme, vous allez opposer l'ambivalence et les nuances de l'âme, et vous allez compléter sa vision d'homme par votre regard de femme. Telle est la magie de cette compagnie. Le temps dépose ses couches successives qui accentuent les reliefs et doucement impriment dans notre histoire la marque des époques et les évolutions de l'esprit. C'est pourquoi nous vous accueillons aujourd'hui avec bonheur, madame. Soyez la bienvenue parmi nous.